Vous êtes sur RTL.
Nous sommes donc avec Véronique qui a écouté effectivement le récit de l'audition et le procureur hier a pris la parole et on a appris comment s'étaient passées les choses et effectivement c'était un récit glaçant, sordide. Véronique, vous avez été choquée.
Ah oui. Bah oui, parce que j'ai entendu l'autre jour, vous aviez à l'antenne une jeune fille de 14 ans qui avait une maturité, qui parlait, qui s'exprimait, enfin voilà, qui avait la tête sur les épaules. Là, quand on entend ça, on se dit, ils vivent quoi? Enfin, c'est quoi leur... moi, je me demande comment on peut frapper quelqu'un pour cacher les marques, la balancer dans l'eau. On se doute bien qu'à 14 ans, on est quand même censé savoir qu'une personne qui vient de recevoir 10 coups, qui arrive dans l'eau, va pas forcément s'en sortir. Et ensuite, tranquille, ils vont faire leurs coups, ils vont à Paris. Et alors, à 2h du matin, à 15 ans, ils sont pas chez eux. On les retrouve chez des copains. Enfin, c'est quoi ça? Moi, j'ai élevé 6 garçons. À 15 ans, je peux vous assurer qu'à 2h du matin, ils étaient à la maison. Hein. Et puis, si à 11h au minuit, ils n'étaient pas chez moi, je m'inquiétais.
Je ne sais pas quoi d'ailleurs, comment vous répondre, parce que ce que vous dites est tellement évident et que vous avez aujourd'hui une société manifestement qui est fracturée et avec des jeunes gens qui sont éduqués, élevés, comme peut-être jadis ils ne l'étaient pas, même s'il faut se méfier hein, parfois, parce qu'on n'était pas là il y a 50 ans ou il y a 70 ans, et il y a parfois des jeunes gens qui aussi se débrouillaient tout seuls et grandissaient, j'ai envie de dire, comme ils pouvaient.
Oui, mais à partir du moment où ils commençaient, je dirais, à être en dehors des rails, tout de suite on les remettait dans les rails, parce que les professeurs avaient le droit de les remettre, de leur dire, faire des réflexions, etc. Il y avait encore un respect. Moi, je vois à l'âge que j'ai, 63 ans, je suis au Mans depuis plus de 30 ans, quand ça m'arrivait de rentrer dans un magasin et qu'un gamin me tienne pas la porte, je lui ai dit, non, toi, excusez-moi, madame, maintenant c'est ouais, sale pute, qu'est-ce que ça peut te foutre? Voilà. Et ça, on l'a.
Ça, par exemple, vous l'avez entendu.
Ah, mais oui.
Vous l'avez vérifié.
Ah, mais oui.
Quand quelqu'un vous dit cela, qu'est-ce que vous lui répondez?
Avant, je répondais. Je dirais qu'il y a 2-3 ans, je répondais. Maintenant, je ne réponds même plus parce que je me dis, il a peut-être un couteau dans la main, je vais me prendre un coup de couteau. Voyez. Donc, le problème, c'est ça aussi. C'est que maintenant, l'autre jour, j'étais dans le tram et il y avait un couple avec un gamin qui était odieux, qui n'arrêtait pas de hurler, enfin, qui enquiquinait tout le monde. Ils sont descendus à une station. Là, tout le monde s'est mis à parler en disant, dites donc, le gamin, mais c'est épouvantable, il poussait des cris, il enquiquait tout le monde. Je dis, oui, mais vous avez remarqué, personne n'a rien dit.
Oui, parce que les gens, ce que vous dites, on le vit tous. C'est-à-dire que dès que nous sommes confrontés à une situation qu'on pourrait imaginer dangereuse, effectivement, on regarde ses chaussures parce qu'on n'a pas envie de prendre un coup de couteau une porte qui n'est pas tenue, bien sûr.
Et c'est là où, effectivement, ils ont la voie ouverte à tous les débordements. Puisque la moindre petite, chose qu'ils font qui n'est pas autorisée, comme de balancer un papier par terre. Moi, une fois, ça m'est arrivé. Il y avait 3 jeunes gens qui avaient 17-18 ans en train de goûter, qui ont balancé les papiers par terre. Je leur ai tapé dans le dos en me disant, dites donc, vous avez une poubelle là, qui est à 3 mètres là.
Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
Alors, c'était pas des gens qui étaient issus c'était des gens issus de la diversité. Oui, mais chez nous, machin. Je dis, écoutez, là, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes en France. En France, on ne laisse pas les papiers par terre, donc vous avez une poubelle, vous ramassez vos papiers, vous les mettez dans la poubelle. Ils m'ont suivi. Et à un moment donné, je suis arrivée à un feu rouge, j'allais au parking, je me suis mise sur le côté, et elle dit, vous n'avez pas confiance? Je dis non, effectivement, vous voyez, j'ai pas confiance. Effectivement. Donc vous allez circuler.
Ce qui est drôle dans ce que vous racontez, c'est que jadis, la parole de l'adulte
était
auprès...
respectée.
Oui.
Bah oui.
Elle arrêtait l'incident.
Sûr. Oui, un gamin à qui on faisait une réflexion baissait la tête en disant, oui madame, excusez-moi. Ça, c'est plus fini, mais c'est fini, c'est terminé, on l'entend plus. Donc il y a quand même. Alors est-ce qu'il faut faire passer un permis aux parents pour faire des enfants? C'est aberrant. On se dit on passe un permis pour conduire parce que c'est dangereux. Maintenant les enfants sont dangereux, donc est-ce qu'il faut passer un permis pour faire des enfants? Il y en a beaucoup qui ne l'auraient pas. Et des fois je me dis ça serait peut-être pas si mal. C'est une aberration. Aller dans les écoles pour. Mais c'est pas le rôle de l'école, c'est le rôle des parents d'éduquer. Donc pourquoi encore des fonds pour que ça soit fait à l'école, qu'on leur verse des allocations pour qu'ils éduquent les enfants? Est-ce qu'il faut les supprimer? Non, c'est peut-être pas la solution, parce qu'ils seront encore plus dans la précarité. Donc moi là, j'avoue que les bras m'en tombent, je ne sais pas quelle peut être la solution à ce problème qui est extrêmement grave.
Ben merci Véronique, vous étiez la première auditrice. Je pense que beaucoup de gens ont dû se refléter dans les paroles de bon sens que vous avez exprimées à l'antenne. Et effectivement, ça devient parfois compliqué si les gosses de 13 ou 14 ans. Mais on a eu un sujet, je crois que c'était il y a une dizaine de jours, où dans une classe de CP-CE1, c'était des enfants qui mettaient tellement, pardonnez-moi l'expression, le bordel, que la maîtresse a démissionné ou elle est en arrêt de maladie. Donc on n'arrivait pas à avoir de l'autorité sur des jeunes gens de 6-7 ans. Je salue Greg Caranoni. C'est une journée particulière pour tous les amateurs de Claude François, puisque le 11 mars 1978, il y a donc 43 ans, aujourd'hui, Claude François disparaissait. Donc on pourra peut-être écouter quelques musiques de Claude François tout à l'heure. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et l'ami Laurent Tessier, là, bonjour Laurent.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Glaçant, sordide, le procureur de la République de Pontoise a livré hier le récit de la mort d'Alisha, 14 ans, frappé puis jeté dans la Seine par deux adolescents de 15 ans d'Argenteuil.
Le jeune homme qui était resté dissimulé se serait approché de la victime et lui aurait donné par surprise des coups au visage, puis lui aurait fait une balayette la faisant tomber au sol. Il lui aurait donné des coups de pied alors qu'elle était au sol, dans le dos et la tête. Le jeune homme et la jeune fille auraient alors attrapé la victime pour la jeter dans la Seine en contrebas du quai. C'est un quai très haut en béton.
Les deux adolescents ont été mis en examen pour assassinat. Durant leur audition dans les locaux de la police judiciaire, les jeunes suspects n'ont pas fait part d'un remords immédiat, d'après le procureur. Maître Franck Berton, l'avocat du jeune homme, s'est exprimé au micro de Valentin Boisset.
J'ai rencontré un garçon complètement effondré, en larmes. Il le dit, jamais j'aurais dû faire ça. Qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je le regrette, si je pouvais revenir en arrière. C'est trop tard, malheureusement.
Mais comment est-il possible d'en arriver là, se demande Ronnie sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. Ces ados vivent dans un monde parallèle. Pour Axel, la prison les ramènera à la réalité. Et dès la moindre alerte, de cas d'harcèlement, il faut intervenir immédiatement, rajoute Corinne. Et encore une fois, conclut Thierry sur nos réseaux sociaux, ils sont dans un jeu vidéo. Ils vont revenir dans le monde réel et tout va s'écrouler pour eux. Des vies brisées au final.
Merci Laurent. Jérôme est avec nous. Bonjour Jérôme.
Allô ?
Oui, bonjour Jérôme, merci bonjour d'être avec Pascal. Nous. Vous souhaitiez réagir à la fois sur le décès d'Alisha et également sur les propos de l'avocat qu'on vient d'entendre d'ailleurs, Monsieur Berton.
Absolument, voilà, les propos de Maître Berton. Alors, on n'a entendu qu'un extrait, moi j'ai entendu l'extrait un peu plus long ce matin pendant le journal libre d'Yves Calvi. Et c'est vrai que j'étais un petit peu outré par la description qu'il a fait de son client, par ce jeune assassin, puisqu'il faut bien l'appeler comme ça. Donc, à mon avis, à 2-3 jours de cet assassinat, ça serait bien qu'il ait un devoir de réserve. Et aujourd'hui, il ne plaide pas pour son client. Il est à un micro. Et je pense que par respect pour la famille, qu'il puisse dire effectivement qu'il prend en charge effectivement son client, mais qu'il ne le décrive pas comme il l'a décrit et comme on l'a entendu ce matin.
Il y a une question que je me pose toujours, pour tout vous dire, c'est comment M. Berton, qui est un avocat assez célèbre, arrive sur un dossier comme ça. Et j'ai jamais la réponse à cette question. Est-ce que c'est lui qui se propose, parce que j'imagine que la famille ne le connaissait pas forcément, mais pourquoi sur ces sujets-là, on voit toujours effectivement des avocats plutôt célèbres? Donc je vous pose une question vraiment de candide, hein, mais ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, Jérôme... Pardon ?
C'est une bonne question, effectivement.
Oui, parce que, parce que j'imagine la famille, c'est pas la famille qui va le rémunérer. Donc il y trouve son intérêt. Non, son intérêt, disons-le, c'est médiatique. En même temps, il faut défendre, hein, c'est aussi la noblesse de l'avocat. Bon, et le travail, pour le coup, n'est pas forcément facile pour un avocat. Que voulez-vous qu'il dise ?
Oui, mais en même temps, encore une fois, aller jusqu'à tout de suite aller dans son travail de défense, à décrire son client comme quelqu'un de chétif, comme il l'a dit, d'un mètre 60, 50 kilos, un petit peu reclus chez lui, casanier, pour employer le terme qu'il a employé au micro, n'ayant jamais eu affaire à la justice, bon, d'accord. Et pour finir, sur les paroles soi-disant de son client et de cet assassin, disant « je pensais qu'elle allait pouvoir nager et je pensais qu'elle allait même pouvoir peut-être oublier ». Donc je peux vous avouer que quand j'ai entendu ça,
ça vous a choqué.
J'étais complètement outré. Outré. Alors qu'il l'ait dit, c'est une chose, mais qu'il le répète au micro pour essayer, enfin moi en tout cas je l'ai pris comme ça, pour essayer déjà d'expliquer ce geste et peut-être même en partie de le dédouaner, parce qu'aujourd'hui l'inversion des valeurs elle est là. Mais ce qui me choque aussi, c'est qu'un avocat participe à cette inversion des valeurs. Si des jeunes entendent cet avocat, et je pense qu'en tout cas les jeunes du quartier concernés forcément entendent ces paroles, et que partout en France aussi, comment voulez-vous que les jeunes puissent comprendre les choses lorsqu'un avocat commence à expliquer que, oui, bon, ils sont jeunes, ils ont 14-15 ans, ils n'ont pas la conscience des choses parce que les jeux vidéo, parce que, etc., etc. Mais comme l'a dit votre précédente auditrice, à un moment donné, à 14-15 ans, on a quand même conscience des choses graves. Et on ne peut pas penser, on ne peut pas croire que ces deux jeunes gens n'ont pas eu la conscience, à minima, de ce qu'ils faisaient.
Les deux adolescents sont écroués, hein.
Oui, tout à fait, ils sont écroués. Bon, je veux dire, après, ils vont être écroués et condamnés. Ils ont 15 ans. Au max, ils vont prendre 20 ans. Et on sait ce que ça veut dire de prendre 20 ans. Dans 10 ans, au maximum, ils sont sortis. Ils vont refaire leur vie. Tant mieux, tant pis, je sais pas. Je veux pas m'avancer là-dessus et je donnerai pas mon opinion là-dessus. Mais je veux dire, voilà, ils ont toute leur vie devant eux et voilà. Encore une fois, voilà, moi, je voulais insister sur à la fois les propos de cet avocat qui est l'avocat qui va défendre son client, pas de souci, mais attention à ses paroles qui vont évidemment pas dans le sens de la société et telle que la société doit fonctionner. Et j'irai même un peu plus loin et je pose la question à RTL. Est-ce qu'il est bien que dans votre rédaction, vous puissiez, même si évidemment ce qui est dit à votre micro, donc vous le révélez, mais est-ce que, à votre niveau, vous ne pourriez pas dire lors de votre conférence de rédaction, est-ce qu'on peut diffuser effectivement ce témoignage de cet avocat qui en quelque sorte peut aussi en remettre un petit peu.
C'est intéressant la question que vous posez. Les questions se posent. Il y a des témoignages évidemment qu'une rédaction propose de ne pas passer. Il ne me semble pas que là, traditionnellement, un avocat. Fut-il le défenseur d'un meurtrier ou d'un assassin ? La règle, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, est toujours de l'entendre. Voilà. Maintenant, j'entends ce que vous dites et on est aussi dans une société où effectivement, si je me place du côté de la famille, elle n'a pas envie d'entendre l'avocat du meurtrier ou de l'assassin de sa fille, bien sûr. Merci Jérôme, en tout cas, de ce témoignage. Merci beaucoup, parce que c'était intéressant d'écouter cet avis. La pause et nous revenons dans une seconde.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et nous sommes avec Eric qui habite la Sarthe et nous sommes toujours sur ce sujet dramatique de la mort d'Alisha. Eric, bonjour.
Bonjour Pascal. Ce que je voulais dire, c'est je voulais parler un peu des réseaux sociaux et je voulais même me reporter 40 ans avant. Il y a 40 ans, eh bien, on avait des problèmes avec des films qui étaient un peu violents. On disait faut pas plus passer des films violents à la télé, tout le monde les enfants les regardent, c'est épouvantable. On a dit non, c'est pas grave. Ensuite, on a parlé des jeux vidéo, qui étaient des jeux vidéo violents. On a dit, mais faut les interdire. Et ben non, c'est pas grave. Et maintenant, on a Facebook ou autres réseaux sociaux qui permettent de publier des trucs épouvantables. Et on dit non, c'est pas grave.
Si, on dit c'est grave.
Oui, non, mais on dit oui, mais Facebook se permet, par exemple, si Donald Trump publie un truc, de fermer son compte. Pareil en France pour quelques personnes, quelques hommes politiques, on ferme leur compte parce qu'ils ont dit un truc qui pourtant me paraît pas épouvantable. Et pour les enfants, eh ben on surveille rien.
Mais c'est toujours la même réponse. C'est quand même un peu aux parents de surveiller.
Ah oui, alors ça c'est la deuxième étape.
Eric, vous avez des enfants sans doute quoi.
Ou... J'en ai, oui, un petit paquet.
Ah bon.
J'en ai 5.
Bon, j'imagine. Alors si vous en avez 5, j'imagine que vous les avez accompagnés, surveillés, encadrés,
oui, alors,
au moins jusqu'à 12, 13, 14 ans.
Il n'y a pas d'ordinateur dans les chambres.
Bah oui.
avant le bac. Mmh. Et puis, il y a un ordinateur dans le salon, il y a accès, mais maximum une demi-heure par jour. Mmh. Et dans le salon, donc on est derrière, s'il publie sa photo nue, et ben...
À quel âge, ça il,
ben, avant le bac.
Ah oui, donc là, je peux vous dire que vous êtes très, très sévère, parce que c'est 17 ans.
Oui, mais bon...
Pas d'ordinateur, plus d'une demi-heure par jour.
Exactement.
Avant le bac.
Exactement.
Ah oui, ça rigole pas dans votre famille.
Non, ça rigole pas. Mm. Bon, alors, c'est, mon petit dernier, il a 24 ans, donc ça fait 7 ans qu'il a eu son bac, à peu près.
Ils avaient un portable, pardonnez-moi, parce que le portable,
et
ça...
Alors, on a donné un portable en classe de première.
Mm. Mais ça, c'était quand ?
En classe de première, pour le dernier, c'était il y a 8 ans.
Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que les choses vont très vite aujourd'hui. Je ne sais pas si vous pourriez tenir la même rigueur disciplinaire aujourd'hui qu'il y a 10 ans.
Oui.
En 10 ans, les choses ont beaucoup changé.
C'est vrai. C'est vrai, mais je trouve qu'on se trompe dans notre époque actuelle.
Ce qui est difficile... Oui, non, mais cette affaire d'écran est très, très rude. Très difficile à gérer.
Et les gens... Je peux vous raconter une histoire qui est un peu drôle, si on veut. C'est l'histoire d'un avion Paris-Lourdes, où finalement, le pilote a coupé les moteurs brusquement parce qu'il se croyait dans un simulateur et c'était la touche pour rebooter. On appuie sur le bouton et cet avion a failli s'écraser. Il s'est pas écrasé, tant mieux, mais la confusion entre le virtuel et le réel, ça peut toucher tous les âges et particulièrement les jeunes. En l'occurrence, le pilote était plutôt proche de la retraite.
Il a failli avoir une retraite définitive.
Oui, il a fini de ne pas avoir de retraite même.
Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des réseaux sociaux. On va être avec Béatrice, ça sera notre dernière auditrice sur ce sujet, Eric. Mais vous restez avec nous, Eric, encore quelques secondes. Béatrice, qui réagit évidemment sur la mort d'Alisha. Bonjour Béatrice.
Bonjour. Donc oui, je réagis et très choquée évidemment par tout ce qu'on entend de glaçant. Et quand j'entends tout ça, j'ai une phrase qui me tape dans la tête, une phrase que j'entendais de la bouche de mon père qui disait « Quand les églises se videront, les prisons s'empliront ». Et je me dis « Bah, on y est ». Je veux dire, par là, il n'y a plus du tout d'interdit, il y a l'enfant roi qui n'a plus d'interdit, plus de crainte. Est-ce qu'on lui a dit un jour que « tu ne tueras pas » comme nous, on nous a appris, notre génération, quand on allait à l'église, basée sur les 10 commandements, déjà, l'éducation dans la famille, chez nous. Est-ce que les jeunes savent qu'on ne tue pas? Quand on est roi, on a peut-être le droit de tuer dans leur tête. En fait, on s'aperçoit, comme disait l'auditeur tout à l'heure, qu'il y a peut-être une confusion entre la réalité et le virtuel. Moi, j'ai l'impression qu'on consomme une vie. Comme là, cette petite jeune fille-là, consommer une vie qu'on jette à la Seine comme un sac poubelle. Et on sera toujours roi quelque part, parce qu'on le voit là, on entend. Hier, monsieur le procureur qui disait que ces jeunes-là, ces tueurs, n'avaient exprimé aucun regret. Et ce matin, on entend, formaté par sûrement leur avocat, que finalement, c'est pas du tout, ils sont effondrés, etc. Donc je veux dire que l'enfant sera toujours roi, parce qu'il... Dans sa tête, il sait qu'il sera impuni, qu'il va trouver un avocat, justement. Pourquoi un avocat célèbre qui va savoir, avec un beau discours, dire que cet enfant roi, là, restera le moins possible un roi perdu dans sa prison.
Non, mais Béatrice, vous savez, c'est une histoire qui est tellement glaçante.
Mais oui, c'est glaçant. Et puis, on a l'impression qu'il y a une triangulaire, on entend... y a plus, la justice, de toute façon, presque inexistante. L'éducation parentale est presque inexistante.
La justice, elle existe. L'éducation parentale... Par exemple, j'ai entendu la mère de l'agresseur, du suspect. Bon. Comment dire, cette mère, elle a pris la mesure de ce qui se passe.
Oui, comme toutes les mères devraient prendre la mesure.
Elle l'a pris. Bon, j'ai entendu la mère de Alisha qui, effectivement, jamais la vie ne sera plus comme avant. Et c'est glaçant, terrible, sidérant, absolument terrible. Et on est tous spectateurs de cette histoire qui révèle de notre société, bien sûr, qui est un fait divers éclairant sur notre société. Et on est démunis face à cela, Béatrice.
On a l'impression qu'il n'y a plus du tout de... Entre le bien et le mal, je sais pas, le cerveau est vide, là, le cœur est vide, qu'est-ce qui se passe? Bon, heureusement, il y a encore des jeunes, une grande majorité de jeunes qui ont la tête sur les épaules, qui sont... Ça, mais est-ce que ça relève de la psychiatrie? Ce sont des psychopathes.
Je ne peux répondre à cette question, Béatrice, je ne peux vous répondre.
Est-ce que si, même avec une bonne éducation, ces jeunes-là seraient passés à l'acte? Est-ce que il y a quand même une base d'éducation parentale, une communication dans les familles, une transmission? Je le vois, moi, je suis retraitée, on est de moins en moins autour d'une table à pouvoir parler.
Ben merci Béatrice, vraiment merci là aussi pour ces témoignages du quotidien. On va changer de sujet, on va parler de Napoléon. Est-ce que vous êtes un fan de Napoléon, monsieur Caradoni?
Un fan, carrément.
Ben, un fan, il y a des gens qui détestent Napoléon, d'autres qui l'aiment beaucoup.
Je suis plus fan de Claude François, moi.
Bon, le bac, Napoléon. Les préfets, Napoléon. Le code pénal, Napoléon. Le code civil, Napoléon.
Donc et Napoléon, oui. Napoléon, Napoléon, Napoléon.
Serge Lama. Non, mais c'est vrai que nous, notre vie quotidienne porte encore l'influence de Napoléon, de l'empereur. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RT.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
13h31, on va parler de Napoléon parce que c'est un sujet, tous les sujets divisent aujourd'hui en France. Et c'est rigolo parce que pour les 150 ans de l'anniversaire de la mort de Napoléon, on était en 1971, toute la France avait salué Napoléon. Georges Pompidou en avait fait des tonnes et personne évidemment n'y trouvait à redire. Eh bien aujourd'hui, Napoléon pour certains est réduit à l'esclavagisme.
Napoléon, programme des auditeurs, la parole dans quelques instants, mais vous pouvez aussi nous appeler sur cette actualité. En Israël, à Jérusalem, 80 employés de l'hôpital Hadassah, médecins, infirmières et administratifs ont été placés en congé sans solde car ils ont refusé de se faire vacciner contre la Covid-19. En France, la semaine dernière, le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait lancé un appel aux soignants.
Je crois que le temps de la réticence est derrière nous. Je crois profondément qu'on va améliorer tout ça. Ce combat, ils le mèneront encore mieux s'ils sont eux-mêmes protégés. Et je leur demande de se faire vacciner.
La mobilisation commence à se faire ressentir. Les chiffres ont légèrement augmenté. On est passé de 30 à 36% des soignants vaccinés, de 40 à 46% pour les professionnels en EHPAD. Mais pour autant, l'Académie nationale de médecine estime que la vaccination des soignants doit devenir obligatoire. Eh bien, pas question de l'imposer, écrit Sandrine sur la page Facebook. Elle est infirmière dans le Nord. Laissez-nous choisir. Marre d'être pointé du doigt. Il est bien loin le temps des applaudissements. Obligez tout le monde tant que vous y êtes, rajoute Karine. Je suis désolé, répond à l'instant José, le vaccin, c'est l'unique moyen pour l'instant de sortir de cette crise. Soyez responsables, les soignants, demande Patricia. Vous êtes au contact de personnes fragiles. Donc oui, il faut vous obliger à vous faire vacciner. Un peu de bon sens quand même. Qu'en pensez-vous? 32-10. Et vous l'avez dit, Pascal, faut-il commémorer le 5 mai, le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, figure majeure de l'histoire, figure controversée? Emmanuel Macron a-t-il raison de célébrer cet anniversaire? Napoléon est décédé le 5 mai 1821 sur l'île de Sainte-Hélène. Eh bien, on ne doit pas ignorer ce qu'il s'est passé avec l'empereur Lance-Benoît. Cet apprentissage est essentiel. Il faut comprendre notre histoire pour avancer. Napoléon nous a tous marqués pendant nos cours d'école, rajoute Aurélie. Et commémorer le bicentenaire de sa mort me choque, écrit de son côté Bruno. Il a quand même rétabli l'esclavage en 1802. Donc oui, ça me dérange.
C'est très intéressant ce que dit cet auditeur. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il est réduit à l'esclavagisme. Je rappelle aussi qu'en 1810, le code pénal français en Europe est le premier à ne pas réprimer l'homosexualité. C'est pour ça que les choses sont toujours un peu plus nuancées. Pourquoi est-ce qu'on vous parle de Napoléon aujourd'hui? Parce que Gabriel Attal, à l'issue du Conseil des ministres, hier, a dit, évidemment, il y aura une commémoration par le président de la République. Nous sommes avec Frédéric, bonjour.
Bonjour, Pascal. Vous disiez à l'instant que la triste mort d'Alisha était, hélas, un fait éclairant sur notre société. Et je pense justement que la commémoration, c'est l'occasion d'éclairer. C'est une commémoration, c'est l'occasion de se souvenir et la France doit savoir se regarder en face. Voilà, donc moi je suis pour la commémoration, effectivement. En même temps, une commémoration, ce n'est qu'une commémoration. Ce n'est pas une approbation ou une façon de revivre le temps. Hein. Nos valeurs ont évolué et Dieu merci. Mais je pense que la France de 2021, elle doit plus à De Gaulle, au général De Gaulle, à Léon Blum, à Napoléon, n'appliquer qu'à Louis XIV ou même à la Révolution, comme vous le répétiez, vous le disiez très clairement à l'instant, c'est fou ce que l'héritage de Napoléon est encore présent, son organisation territoriale, judiciaire, militaire, son système de justice. Et puis il a su faire une chose intéressante quand même, il a su réconcilier les Français favorables à un déblocage, favorables à la Révolution, et puis ceux qui y étaient opposés. Donc il n'a vraiment pas fait que des mauvaises choses. Et là, je vais vous rejoindre aussi sur ce que vous avez évoqué. Il ne faut pas que le rétablissement de l'esclavage soit l'unique point sur lequel on se focalise. D'ailleurs, on sait que c'est plutôt Joséphine qui le souhaitait, elle-même née en Martinique, que Napoléon Bonaparte lui-même. Enfin, voilà ce que je voulais dire.
Non, mais là où on voit surtout que la société a changé, je disais tout à l'heure, en 1971, ces débats n'existaient pas. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on prend des lunettes de 2021 pour juger 1821 ou 1800. Et c'est ça qui est compliqué, parce que le monde a changé. Tous ceux qui dirigeaient les pays étaient quand même d'inspiration despotique, disons-le, que ce soit à l'époque des rois ou des reines, parfois des empires, empire austro-hongrois, qui existera un peu plus tard. L'époque n'était pas à la République et à la démocratie, disons-le. Jean-François est là, Jean-François, et vous allez pouvoir échanger avec lui, Frédéric, puisqu'il déteste. Oh là là, Jean-François. Jean-François, c'est pas un grognard de Napoléon, il déteste Napoléon.
Pas du tout.
On fait une petite pause, Jean-François.
Ok,
vous êtes
la pub.
Une pause. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Jean-François.
Bonjour.
Jean-François qui déteste Napoléon.
Oui, assez, oui.
Pourquoi ?
Alors, bon, allons-y. Tout le monde nous balance son code civil. Son code civil qui rétablit l'esclavage et qui renvoie les femmes au rang d'animal domestique. C'est quand même pas terrible.
Je suis pas sûr que les femmes soient renvoyées au rang d'animal domestique.
Renvoyez votre histoire.
Non mais la difficulté, bon, c'est de prendre des lunettes de 2021. C'est ça qui est compliqué dans l'histoire.
Oui, alors continuons si vous voulez. Le militaire, il n'était pas si bon que ça. Tout militaire vous expliquera que la seule bataille à ne pas perdre, c'est la dernière. Ben, il a perdu la dernière. Ensuite, il a quand même fait, pour sa guerre contre la Russie, il a fait tuer 500 000 gamins. Ça, c'est plus que la guerre de 14. Enfin, il y a plein de trucs. Je ne comprends pas.
C'est pas plus que la guerre de 14. C'est pas plus que la guerre de 14. La guerre de 14, c'est 1 500 000 morts.
C'est beaucoup plus que la guerre de 14 en relation avec la population française de l'époque.
Oui.
C'est un massacre. Bon, moi, je ne suis pas un admirateur de Napoléon, qui nous a mis après au banc des nations européennes, qui nous a coûté 3 guerres, 70, 14 et 40.
Ah oui, vous faites un lien, Napoléon est responsable de 3 guerres.
Oui,
c'est
oui,
un peu sommaire quand même, mais bon. Donc 70, effectivement, 14, 40, tout ça c'est lié.
Mais oui, bien sûr que c'est lié, si vous relisez un peu quelques textes.
C'est audacieux quand même. Alors non, mais je connais connais le raisonnement. 14 est la revanche de 70 et 40 est la revanche de 14. Bon.
Oui, voilà, c'est ça, oui.
Non, mais c'est audacieux, disons-le. L'histoire est sans doute plus complexe.
C'est évident sur le terrain, quoi. Il faut regarder. Bon.
Bon, enfin, vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas beaucoup.
Non, cette admiration de 14, c'est la troisième. Cette admiration de Napoléon, pardon, c'est la Troisième République qui avait besoin d'un héros. Et ils ont très bien travaillé.
Vous trouvez que la Troisième République a fait de Napoléon? Parce que la polémique sur Napoléon, elle traverse tout le 19e siècle. Hein. Le 19e siècle. Oui. Franchement, il n'y a pas que des admirateurs. Oui. Je trouve que ça s'est un peu calmé dans une partie du 20e, et puis aujourd'hui, ça revient. Oui.
Quand j'étais en seconde, où on étudiait Napoléon, maintenant on n'étudie plus l'histoire, j'assassinais Napoléon dans tous mes devoirs, mais j'avais toujours de bonnes notes.
Bon, on va essayer de... Alors restez avec nous aussi. On va essayer de prendre, tiens, un jeune, pourquoi pas, un jeune étudiant en socio, Sacha. Sacha, bonjour. Que pense un jeune étudiant de Napoléon? Bonjour.
Bonjour. Alors, là, j'écoute un peu, du coup, tout ce qui se dit, et je suis plutôt d'accord avec ce que vient de dire François. Même si je pense m'y connaître un peu moins que lui, et d'ailleurs j'aurais pas du tout la prétention de me décrire comme un spécialiste, comme un grand
moi non plus, je te rassure.
Voilà, mais du coup, effectivement, moi je vois Napoléon exactement comme François, c'est-à-dire que moi je le vois comme déjà quelqu'un qui est en opposition totale avec les valeurs que doit défendre Macron, c'est-à-dire les valeurs.
Macron n'a rien à voir là-dedans.
Oui, mais laissez parler Sacha, Jean-François.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que Macron veut rendre hommage, enfin, le gouvernement Macron veut rendre hommage.
Il veut commémorer. Voilà.
Ils savent plus à qui s'accrocher.
Jean-François.
Et quelque part, c'est un hommage.
Pardon.
Quelque part, c'est un hommage. Et justement, quand on est un président de la République, quand on doit normalement défendre des valeurs qui sont celles de 1789, défendre la personne qui a piétiné qui était présentée comme
une république
à l'époque. Voilà, quelqu'un qu'on rende hommage d'une certaine manière à un homme qui a piétiné ce qui était prôné en 1789, c'est quand même
l'espoir de 89.
Étonnant. C'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant qu'un quelqu'un qui prétend défendre la République veut tout d'un coup plus ou moins rendre hommage, commémorer la mémoire d'un empereur. De quelqu'un qui est totalement en opposition avec des valeurs que le gouvernement prétend défendre.
Oui, mais voilà. Ça, c'est vrai, convenez alors que c'est vrai pour tous les rois de France. Donc, on démolit Versailles, on ne rend jamais hommage
à
Louis XIV.
Les rois de France étaient dans la droite ligne de la royauté. Napoléon est arrivé nommé par une république.
Non, mais vous comprenez bien ce que je voulais vous dire, c'est que les rois de France ne brillaient pas par la pratique démocratique.
Et alors ? Nous parlons de Napoléon.
Non, je vous réponds par analogie.
Qu'est-ce qu'il faut ? Remonter à Versailles Vétorix ? Non, on ne va pas y arriver.
Bon, Sacha, alors en revanche, au-delà. Je vais vous dire ce qui est intéressant. Au-delà de l'avis que chacun peut avoir. C'est de comprendre aujourd'hui combien la France est encore sous l'influence de Napoléon. C'est ça que je trouve intéressant. Je disais tout à l'heure
bac. C'est une catastrophe.
Le bac, vous trouvez que c'est une catastrophe ? Les préfets.
Non, Napoléon est une catastrophe.
Oui, j'ai bien compris, Jean-François, que pour vous, c'est une catastrophe. Mais par exemple, la Cour de cassation, c'est Napoléon. Le Conseil d'État, c'est Napoléon.
Mais ce sont des détails.
Ah, vous trouvez que c'est un détail, vous ?
Ben oui, par rapport à ce qu'il a fait de la France face à l'Europe.
Mais ça, c'est sans doute contestable, et vous avez raison, que cette volonté hégémonique, elle est sans doute contestable. Le nombre de morts, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le bilan parfois positif ou négatif. Ouais. Mais surtout, au-delà de ça, l'influence qu'il y a encore. Vous voyez, le héros, le bonapartisme, par exemple, qui est un courant... politique très fort, eh bien, tu le retrouves chez De Gaulle, tu le retrouves, pourquoi pas, un degré moins chez Chirac, en tout cas un Chirac, mais surtout chez Sarkozy. Vous voyez, ça influence, ça imbibe notre vie politique. Non, l'homme providentiel, c'est pas des carabistouilles, c'est notre vie politique, elle est parfois très influencée par cette volonté-là.
Il faudrait qu'on en discute pendant des heures.
Moi, c'est factuel ce que je vous dis. Mais on va marquer une petite pause et puis on va faire. Ouais. C'est à vous de parler.
Donc
il y a Jean-François, Sacha. Alors sur Napoléon, on va faire un malheur. Je sens. Tiens, je vais parler à Bertrand parce que je lis que Bertrand, il est bonapartiste. On aurait pu appeler d'ailleurs dans la ville impériale, cher Greg. La ville impériale, Ajaccio. Ajaccio, Ajaccio. Vous ne connaissez pas cette chanson de Tino
Rossi.
Très bien. La ville impériale. L'empereur est né à Ajaccio, comme vous le savez. A tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Je viens d'avoir l'ami Philippe Rey, qui dirige la rédaction d'RTL. Alors, il va appeler Jacques Esnoux et peut-être Régis Ravanas, mais il est question que nous fassions les auditeurs ont la parole le 5 mai en direct de Sainte-Hélène.
Allons-nous rester à Sainte-Hélène pendant 6 ans?
Ça serait formidable. Je rêve d'aller à la Sainte-Hélène. Alors évidemment, c'est très très compliqué. Je ne pense pas que nous irons faire les auditeurs ou la parole. Mais parmi les destinations où j'aimerais aller, je trouve que Sainte-Hélène, je rêve de ça. Pas vous ?
Non, pas forcément. Mais écoutez, on pourra y aller ensemble avec plaisir. Hein. On va tout délocaliser.
Jadis, quoi, longtemps, il n'y avait pas d'avion. Il y a une piste d'avion depuis 3-4 ans. Fallait aller en bateau, c'est un rocher perdu.
Écoutez, je sortirai un voilier pour vous, exceptionnellement.
Bon, allez, ça réagit sur Napoléon ?
Pascal, surtout à 14h, nous parlerons de Claude François. Le 11 mars 1978, il y a 43 ans, le chanteur nous quittait.
C'était un samedi.
Selon les premières informations, Claude François est mort d'une électrocution. Il était dans sa salle de bain, il allait prendre son bain, il tentait de remplacer une ampoule qui venait de claquer. Il a été découvert inanimé par une de ses collaboratrices qui venait le chercher pour se rendre à un gala dont il était ce soir samedi la vedette.
Vous rappelez-vous de ce
Vous avez reconnu
journée.
La voix. Philippe Labro, himself.
Bien vu,
que l'on salue.
Vous rappelez-vous de cette journée? Comment l'avez-vous appris? Quelle chanson a marqué votre vie? Quel est le titre qui vous vient immédiatement à l'esprit? Magnolia Forever? Ou peut-être Alexandrie Alexandra? Ou alors comme d'habitude. Si vous avez rencontré Claude François, venez témoigner au 3210 à 14h. 3210 dès maintenant.
Napoléon donc avec Bertrand. Bonjour Bertrand, vous êtes chauffeur de taxi ?
Tout à fait, bonjour Monsieur Pro, comment ça va ?
Ben, ça va très bien. C'est quoi être bonapartiste ?
Eh ben, c'est un certain état d'esprit. Tout d'abord, je voudrais dire si l'empereur. Face à ce que j'ai entendu là tout à l'heure, qui m'atterre un petit peu quand même, parce que là, on est allé un peu loin dans les propos. Mais par exemple, Napoléon, c'est quoi ? C'est le Concordat, attention. Jusqu'à ce que Napoléon établisse ce Concordat, les relations avec l'Église étaient très tendues. On avait eu quand même des massacres à la Révolution. Il a réussi à apporter une paix civile. Une paix civile, après pratiquement une décennie de troubles, enfin de troubles, le mot est faible. Mais en tout cas, non, c'est une façon de voir les choses. C'est-à-dire ne jamais se laisser abattre, c'est ça le bonapartisme. C'est ça, ne jamais baisser les bras, toujours en vouloir.
Et par exemple Jean-François, et d'ailleurs Jean-François il peut vous répondre ou engager la conversation avec vous, les milliers de, voire les millions de morts, en tout cas les centaines de milliers de morts, les guerres napoléoniennes, cette volonté hégémonique de vouloir régner sur l'Europe, est-ce que vous mettez cela au bilan négatif de Napoléon Ier ?
Pour ma part, pas du tout, puisque de toute façon, on s'est fait agresser. Ce sont des agressions, ce sont des guerres d'agression. À chaque fois, il y a eu des coalitions qui se sont levées contre nous, et on a été obligé d'y répondre. Donc, l'empereur ne voulait qu'une seule chose, c'est établir sa dynastie. Et pour établir une dynastie, il faut être en paix. Sinon, vous êtes...
Une dynastie, c'est donc un dictateur.
Non, du tout. Du tout, du tout, du tout. C'est quelqu'un qui a voulu éclairer l'Europe et chasser les tyrans. N'oubliez pas qu'une chanson... la victoire en chantant, c'est ça. Hein. C'est, et du nord au midi, les trompettes guerrières.
Ouais, ouais, 500 000 morts.
Pardon ?
500 000 morts.
Façon ?
Non, il a dit 500 000 morents, Bertrand. La victoire en chantant, d'ailleurs, qui avait été reprise par Valéry Giscard d'Estaing en 1974.
Effectivement, il y a eu quelques morts. Oui, bah, et c'était une grande armée. C'est ce qu'on appelle la grande armée. Bon.
La grande armée qui l'a très mal commandé.
Non, Napoléon est l'un des plus grands génies militaires. La campagne
de France, il a perdu en Russie, alors, il a perdu à Waterloo. Les deux qu'il fallait pas perdre.
La campagne de France, c'est plusieurs combats. On est
la campagne de France, c'est en 45.
Non, là, il faudrait revoir quelques manuels scolaires.
Alors là, je vous attends quand vous voulez.
La campagne de France, c'est 1814. Quand vous parlez à quelqu'un qui connaît l'histoire, la campagne de France est 1800. J'ai bien dit la campagne de France.
Oui, et les massacres. C'est mon. Oui, je connais. Et les massacres de Vendée, etc.
Craon, que des victoires. 1-10.
Que des morts.
Et alors
Les
humains n'avaient pas la même valeur. Il faut vous mélangez.
Ah, mais si c'était la vôtre, vous auriez.
Mais non, mais moi, 5 membres de ma famille ont fait partie de l'armée, de la grande armée. Il y en a 4 qui sont morts, 1 qui a survécu. Et alors,
vous leur avez parlé ?
Vous leur en avez parlé.
Mais, oui, c'est ainsi.
Jean-François.
Oui, je suis là.
Mais bon, non, mais attendez, Bertrand, ça vous m'intéressez. Jean-François, je vous propose de laisser parler Bertrand, parce que Bertrand nous paraît, si j'ose dire, a une vie particulière. Comment vous savez que 5 personnes de votre famille étaient dans la grande armée de Napoléon ?
Parce que quand vous faites des recherches en généalogie et que vous vous intéressez un petit peu à la question, vous allez sur les sites des décorés de la Légion d'honneur et vous apercevez par exemple qu'un simple brigadier trompette, enfin qu'un simple trompette au 16e régiment de dragons, qui était basé à Saintes à l'époque et dont faisait partie un de mes ancêtres, a reçu la Légion d'honneur à la bataille d'Heilsberg, c'est en février 1807.
Oui, parce que la Légion d'honneur, c'est également Napoléon.
C'est, entre autres, hein, mais ouais. Par ça, c'est rien du tout. Mais disons qu'entre autres, et disons que il a été décoré. Après, voilà, il n'était pas général, il n'était pas rien.
Non, mais le parcours de Napoléon est absolument fascinant. C'est d'une banalité ce que je te dis là, de partir de rien, quand il arrive à Brienne.
Quand il était sacré empereur et qu'il s'est retrouvé voir son frère, il lui a dit, si notre père nous voyait, il faut imaginer. Il y a eu une révolution qui a mis la France à feu et à sang, et notamment pendant la terreur de 92 à 93, où les têtes volaient, mais pas les têtes forcément des aristos, c'est le peuple qui a plus payé. Napoléon, il a remis la chose en place. Le concordat, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que tout l'ouest de la France était en... les Chouans et les Vendéens ont mené des combats contre...
Il les a pas mal massacrés. Hein.
Pardon ? Ah non, l'empereur n'a rien fait contre eux.
Bon, Bertrand, Jean-François, il y a Didier qui est là également, qui veut dire un petit mot sur Napoléon. Je salue
Bonjour Didier.
Bonjour Didier.
Oui, chers amis, salut Pascal. Eh bien, dis donc, l'ami Napoléon... il crée une belle dynamique. Alors, on est pour, on est contre.
Bah heureusement.
Le legs de Napoléon, il est présent. Le code civil est devenu un modèle européen. Tu l'as dit, le baccalauréat, c'est le premier examen ouvert à tous. Et outre son idéal républicain qui a quand même stabilisé l'héritage de la Révolution française, on l'a dit tout à l'heure, il a quand même permis l'avancement de la science. Les expéditions militaires, notamment, avaient un volet scientifique. On peut rappeler Champollion en Égypte. La légende, vous le disiez, elle est à Brienne. Alors là, c'est pas le maire de Fontbonne qui parle, mais c'est le président du tourisme de l'Aube en Champagne. La fameuse bataille de boules de neige qui a amorcé sa stratégie, et vous l'évoquiez tout à l'heure, la campagne de France en 1815, ça reste le plus grand stratège militaire. C'est le fameux modèle de Clausewitz. Alors, effectivement, moi j'ai beaucoup d'admiration pour cet homme, pour ce gamin, parce qu'il est arrivé à Brienne, il avait 10 ans. Lui, il est arrivé parce qu'il a eu une bourse, alors que tous ceux qui bénéficiaient de cette formation militaire, ils avaient, je dirais, un statut un peu plus enrichi, si je peux dire. Et il était rejeté par tous ses potes de classe. Et du coup, il bossait du matin 6h jusqu'à 20h le soir. Et c'est devenu cet homme, comme vous le dites, qui a créé les routes, l'état civil, la Légion d'honneur, le livret ouvrier. Enfin, alors, on aime, on n'aime pas. Mais notre pays aujourd'hui, qui a quand même, on a la chance que notre pays a une histoire. Et faire le bicentenaire, c'est pas forcément reconnaître toutes les actions qu'a portées l'homme. Mais si devant cette jeunesse qui regarde et qui nous observe dans des moments aussi difficiles de crise sanitaire, on pourrait parler aussi de ceux qui adhèrent au gaullisme. Il y a des hommes, des grands hommes dans notre pays, ou des grandes femmes à un moment donné dans l'histoire.
Et nous allons continuer cette discussion après la pause et après le journal, le rappel des titres d'Olivier Bois. À tout de suite, on parlera encore un poil de Napoléon et puis on parlera également de Claude François. Et on aura peut-être une surprise, je l'espère.
La surprise est déjà là en régie.
Non !
Si, si.
Je salue la surprise.
Ouais,
où elle est la surprise ?
Elle est à ma gauche.
Mais je vois rien. Ah, bonjour surprise. Comment ça va ?
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h. Le flash avec Olivier Bois.
Je ne me reproche rien. Le sélectionneur du 15 de France de l'équipe de rugby, Fabien Galthié, a fait cette mise au point ce midi au moment de dévoiler sa liste pour le match du tournoi des Six Nations contre l'Angleterre. Il répondait pour la première fois après la polémique à ce cluster apparu au sein de l'équipe. Côté sportif, on retient que Mathieu Jalibert est titulaire à l'ouverture. Ntamack est donc remplaçant. Le match Angleterre-France à Londres, c'est samedi à 17h45. On apprend à l'instant qu'à cause du confinement prolongé ce week-end sur le littoral des Alpes-Maritimes, l'arrivée de la course cycliste Paris-Nice ne se fera pas comme d'habitude sur la promenade des Anglais. Les réunions s'enchaînent pour adapter le parcours aux nouvelles contraintes sanitaires. La France annonce aujourd'hui l'assouplissement des voyages en direction de 7 pays hors Union européenne, notamment la Grande-Bretagne, en abolissant l'obligation d'un motif impérieux du fait de la diffusion déjà très large du variant britannique en France. Dans le reste de l'actualité, les deux adolescents qui ont jeté dans la Seine la jeune Alisha ont été incarcérés à l'issue de leur mise en examen pour assassinat. L'enquête permet d'établir à ce stade que la jeune Alisha est tombée dans un guet-apens. Elle a été frappée lundi soir avant d'être jetée à l'eau. Le quintet à l'instant à Saint-Cloud, l'arrivée provisoire, l'As, le 5, le 6, le 11 et le 13.
Merci Olivier.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Je vous avais annoncé une petite conclusion sur Napoléon. Vous pourrez réécouter, pourquoi pas, un célèbre chanteur, Serge Lama, qui avait fait un opéra consacré à Napoléon. Alors voilà, ça c'est Lettre à Joséphine, par exemple.
Que c'est loin, Paris.
Très jolie chanson, Lettre à Joséphine.
Je t'aime tant.
Il y avait peut-être un autre titre. Ça avait été un grand succès dans les années 80. C'était bien écrit, d'ailleurs, je crois que c'est Alain Decaux qui avait écrit tout cet opéra. Et c'était Lama qui avait tourné en France avec une jeune femme, je crois, qui s'appelait Marie-Christine Delaroche.
Christine Delaroche.
Christine Delaroche me dit la surprise.
L'invité mystère.
L'invité mystère, ma surprise. Christine Delaroche.
J'étais la risée des copains, ils m'appelaient la paillonnée.
14h03, la surprise est avec nous. Bonjour monsieur Florian Gazan.
Bonjour monsieur Pascal Perrault.
Alors les auditeurs ne le savent peut-être pas, mais vous êtes le neveu.
Le filleul
de Claude François, ouais. Qui était votre parrain,
ouais.
Parce que votre père était très ami avec Claude François. Votre père a bercé nos après-midi et nos soirées de variété. C'était Jean-Pierre Spirou, qui, ouais, était un réalisateur très, très célèbre. Est-ce que vous vous souvenez du 11 mars 1978?
Oui, c'est le jour évidemment de la mort de mon parrain, de Claude François. Et je me souviens très bien d'où j'étais. Et c'est assez étrange en fait l'histoire. C'est que c'était un samedi après-midi. Je rentrais de jouer au tennis. J'habitais dans l'Essonne, à Saint-Germain-les-Corbeil. Je rentrais de jouer au tennis, je rentre chez moi, j'étais en sueur et tout, je vais dans ma salle de bain, c'est vrai, hein. Je vais prendre une douche pour me laver, je sors de la salle de bain, ma mère effondrée me dit « Florian, Claude est mort ». Dans sa salle de bain lui aussi, incroyable. Et là évidemment c'était le choc, moi j'avais 10 ans quand il est mort, Claude, et on perdait un membre de la famille, parce que mon papa était très proche de lui, puisqu'il a réalisé beaucoup de shows, et voilà, ils s'étaient trouvés dans cette forme de pointillisme très exigeant, des gros caractères, parce que mon papa avait un gros caractère, et voilà, et donc du coup moi je passais tous mes week-ends quasiment à Danemois, au Moulin. Et donc j'ai le même âge exactement que Claude, François Junior, l'aîné. J'ai vu naître Marc, qui a le même âge que ma petite sœur. Donc vraiment, on a grandi un peu en parallèle. Et j'allais à Danemois au Moulin tous les week-ends, parce que ma maman était devenue très très amie avec Isabelle, la maman de Claude et Marc. Et donc voilà, donc j'ai des souvenirs d'enfance liés à Claude François très forts. Alors j'aurais adoré évidemment être un peu plus âgé pour partager plus de choses avec lui. Mais j'ai des grands souvenirs de ce Moulin, des grandes fêtes qu'il organisait pour tous ses amis. C'était quelqu'un qui était effectivement très... on a l'image un peu de quelqu'un un peu acariâtre, un peu chiant. Il était hyper tatillon. D'ailleurs, il est mort de sa maniaquerie, puisque en fait, quand il rentrait tous les week-ends, il rentrait le samedi matin. Généralement, les vendredis soirs, il avait des galas un peu en province, donc il rentrait, il roulait dans la nuit. Il arrivait le matin, il rentrait dans le Moulin, et avant même de dire bonjour à qui que ce soit, à sa femme, à ses enfants, il allait vérifier que la pelouse était bien tendue, à la bonne hauteur, qu'il n'y avait pas de poussière au-dessus des meubles, parce qu'il était hyper maniaque, il fallait que tout soit carré. C'est-à-dire qu'il y avait, s'il y avait un gravillon dans la pelouse, il pétait un plomb, quoi. Et donc, en fait, il était comme ça, et quand je dis il en est mort, c'est parce que cette histoire de salle de bain, effectivement, il avait une applique au-dessus de la salle de bain, à cette époque-là, au niveau électricité et sécurité, n'étaient pas les mêmes. Et l'applique, elle n'était pas droite. Et à chaque fois qu'il rentrait dans la baignoire, il avait une sorte de tic. Il mettait une sorte de pichenette dans l'applique pour la remettre droite. Mais sauf qu'à force, au fil des années de la remettre droite, le fil s'est dénudé en dessous. Et puis un jour, il était à nu, il a mis la main dessus et rester collé.
Alors, évidemment, les auditeurs se souviennent de Claude François. Est-ce qu'on marque une première pause avant peut-être d'écouter Paul, Grégory ? Et puis, on parlera tout à l'heure du téléphone pleure, parce que j'ai appris quelque chose avec Éric Jean-Jean, et je vais vous demander tout à l'heure si c'est la vérité vraie. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et Paul est donc là. Bonjour Paul.
Bonjour Pascal, comment allez-vous?
Mais ça va très bien, vous vouliez témoigner sur cette journée particulière du 11 mars 78.
Oui, alors si vous me permettez, alors la surprise, elle est de taille. Je me suis dit, on est sur RTL, peut-être c'est André Torrent, qui était quand même un des excellents amis de Claude. Peut-être Monique Lemarcy. Ok, et puis je vois Florian. Alors Florian, je tiens vraiment à vous saluer.
Merci.
Parce que je vous trouve d'abord brillant par vos connaissances aux grosses têtes. Et ça fait depuis un moment que je me dis, il a la chance d'être le filleul de Claude. Son papa, c'était Jean-Pierre Spiro, etc. Et voilà, je tenais vraiment à vous saluer. Je suis touché de vous entendre. Voilà.
C'est
et surtout le témoignage que vous avez fait. Et voilà. Alors Pascal, oui, je tenais à témoigner. Pourquoi ? Parce que quand Claude est mort, j'avais 17 ans, donc on m'a dit que vous étiez très bon en calcul mental, donc vous savez l'âge que j'ai maintenant. J'ai une fidélité par rapport à cet homme-là qui a été le chanteur de mes années d'enfance. Même si mes goûts musicaux ont beaucoup évolué depuis la mort de Claude, je suis toujours resté fidèle à l'homme parce que d'abord, on jouait pendant mon enfance et surtout, quand on se donne la peine, et là, je m'adresse à la pseudo Inintelligentsia qui débâche sur lui à longueur de temps, et ça, c'est insupportable. Ce garçon a eu une vie particulière, comme tous les artistes, qu'il faut respecter. Et il s'est battu pour en arriver là où le public l'a porté. Parce que je ne sais pas si 43 ans après la mort de certains chanteurs, ils seront toujours aussi vivants dans le cœur et dans l'esprit des gens. Et à chaque fois, la question, c'est celle que vous avez posée à Florian. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faisiez le 11 mars 1978 ? Tout le monde se souvient de ce qu'il faisait ce jour-là parce que c'était le premier des copains qui partait. Claude avait 39 ans, il était à l'apogée de sa carrière, et parmi les copains qu'il y avait, c'était Sheila, c'était François, c'était Johnny, c'était Sylvie, c'est le premier qui est parti. Et ça a sidéré la France. Voilà.
Quelle est votre chanson préférée, Paul ?
Alors j'en ai beaucoup, bien sûr. Alors inévitablement, comme d'habitude, parce qu'il faut quand même savoir que c'est une chanson française. Il y a eu plus de 1600 interprétations dans
Jacques
le monde
Revaux.
Entier. Jacques Revaux et Gilles Thibault. Pas oublier Gilles Thibault. Et
Gilles Thibault,
la même année, Jacques Pote pour lui avait fait Que je t'aime pour Johnny, d'ailleurs.
Bien sûr.
Et puis une autre chanson, alors que certainement Florian connaît, que on ne connaît que si on est fan de Claude, que j'aimais beaucoup, c'était une chanson qui s'appelle Comme les autres, qui était sur l'album de Cherche. Et c'est une superbe chanson, mais qui a été vraiment la face B de ce qu'on appelait les SP de ce temps-là, c'est-à-dire les 45 tours à 4 chansons. Voilà.
Merci Paul,
merci.
Vraiment merci. Marie-Yvonne. Marie-Yvonne est là, qui habite Rennes. Bonjour Marie-Yvonne.
Bonjour Monsieur Pro.
Et
oui,
merci
j'habite...
d'être.
Bonjour.
Oui. Bonjour, oui, j'habite au sud de Rennes, une petite commune, Chanteloup, sur la route de Nantes.
Je connais.
Voilà. Bon, je vous appelle parce que moi je tenais à témoigner. Claude François, pour moi, ça a été vraiment mon idole. Et j'ai eu la chance de le voir en concert à Rennes. Et quand j'ai appris son décès, ça a été d'autant plus dur pour moi parce que ce jour-là, je fêtais l'anniversaire de ma fille qui est née à 11 mars. Alors, imaginez ce que j'ai ressenti. Je dis, c'est pas possible. Et donc, ma fille avait 3 ans à l'époque. Et je peux vous dire, j'ai pleuré. Je ne l'oublie jamais. Je suis une grande fan. J'ai plein d'articles de lui. J'ai même la chance d'avoir une photo privée qui avait été prise dans une discothèque à Quiberon. Et là, on me demandait tout à l'heure qu'est-ce que c'est les chansons que je préférais. Moi, c'est surtout « Sale bonhomme » et « Le téléphone pleure ». Pourquoi « Le téléphone pleure » ? Parce que quand j'attendais ma fille, il faut savoir que j'étais couchée 8 mois et j'ai une amie qui m'a procuré ce 45 tours et je l'écoutais en boucle, en boucle, en boucle.
Donc et le téléphone pleure, c'est quelle année? C'est 75?
74.
74, ouais. Bon, toute la France 60... chante oui. Le téléphone pleure, c'est un immense succès. Et alors, la surprise de la surprise, je l'ai appris tout à l'heure, c'est Éric Jean-Jean qui m'a dit cela, la voix de la petite fille, c'est vous qui deviez la faire.
En fait, c'est la petite fille, c'est Frédéric Barkoff qui était la fille de l'assistante de Claude. Et ouais, il cherchait un enfant à l'époque pour faire cette voix-là. Et effectivement, j'étais dans les enfants de l'entourage, vu la promiscuité avec mon papa. Et donc, j'étais quelque part en finale, jamais fait d'essai et tout. Mais finalement, ils ont pris une petite fille, ce qui était plus logique par rapport à Claude. Mais ça aurait pu être moi, oui.
Mais il n'y a pas de maquette.
Non, il n'y a pas de maquette. Non, je suis désolé. Non, Pascal, ne cherchez pas. Il n'y a pas de maquette.
C'est le plus gros succès vente, le téléphone pleure.
Ça doit être un des. Il y en a eu beaucoup. Hein. Je pense qu'il a dû vendre beaucoup de Alexandrie Alexandra aussi. Ça a dû partir pas mal. Mais il a fait énormément de tubes. Mais ce qui est assez étonnant quand on se penche dans la discographie de Claude, c'est qu'il y a beaucoup de super chansons qui sont très peu connues. Et puis évidemment, beaucoup d'adaptations. Parce qu'il faut rappeler quand même, c'était quand même quelqu'un qui était précurseur. Ça a été le premier en France à avoir une parabole pour pouvoir écouter les radios étrangères. Parce qu'il voulait être le premier à choper les tubes américains ou anglais pour prendre les droits et les adapter en France.
Marie-Vonne, votre chanson préférée, vous disiez, à part peut-être le téléphone pleure.
Sale bonhomme.
Sale bonhomme.
Ah oui.
Oh, sale personne.
Un monstre en somme.
Ce sale bonhomme.
C'était son album un peu country.
Oui, mais c'était vraiment, comme vous dites, un précurseur. Et on ne se lasse pas. Il est indémodable, ce chanteur. On l'entend tout le temps.
C'est ça qui est fou. C'est un chanteur mort. Qui est incroyablement présent aujourd'hui encore dans la variété française, à l'instar de Joe Dassin aussi, mais ils ne sont pas si fréquents. Il y a beaucoup de chanteurs morts qui ont disparu. On écoute moins Gainsbourg qu'on écoute Claude François. Dans les boîtes de nuit, on écoute toujours Claude François quand elles étaient ouvertes.
Ce sont des chanteurs populaires. Il a chanté d'ailleurs une chanson, populaire. C'était des chanteurs populaires, c'était des chanteurs de supermarché. C'est pas péjoratif de dire ça. On entendait du Claude François quand on allait faire ses courses chez Mammouth, ça n'existe plus. En discothèque, Gainsbourg, c'est un peu plus élitiste. C'est exactement. Génial. Mais...
Alors ça, c'est exceptionnel. Ça, ça c'est pas une adaptation, c'est un titre original. Ouais. Ça
s'en va.
Je trouve que on le dit souvent, mais rien de mieux qu'une chanson témoigne d'une époque et de la légèreté de ces années-là. Mais bon, c'est une banalité à chaque fois de le dire. Nathalie est là. Merci Marie-Vonne. Hein.
Si, à ce soir sur chez nous.
Ah bah, au revoir. Okay, dis donc. Fan de Claude François et de Pascal Pau. Alors.
Merci Marie-Vonne.
Ah oui, merci à vous. Au revoir.
Vous êtes gentille Marie-Vonne. Nathalie qui habite dans les Alpes-Maritimes, c'était mon prince charmant, dites-vous Nathalie. Pourquoi?
Oui, j'étais fille unique, mes parents étaient commerçants, donc j'avais pas beaucoup de vie de famille, d'activité. Et Claude François, bon, c'était mon époque, j'avais 10 ans, 10, 13 ans. Mon univers, c'était mon manche de disque Orange, mes 45 tours, Clo-Clo, Chélas, Tony Chardin, Louis Michel, etc. Mais Clo-Clo, il y avait ce petit truc en plus, j'étais abonnée à Podium, évidemment. J'avais tous les gadgets, les coussins, les posters, etc. On aimait Claude François dans la famille. Mon père disait, c'est un bosseur, il est parti de rien. Même encore maintenant, il dit, s'il était toujours là, il serait certainement un grand PDG d'une chaîne de télé ou quelque chose comme ça. Moi, mes grands-parents aussi adoraient parce que je faisais des chorégraphies, je faisais le petit spectacle. Le jour de sa mort, j'en ai un peu la chair de poule. C'est vraiment un jour que je n'oublierai jamais. C'est mon premier grand choc. C'est le premier décès. C'est la première fois que je réalisais.
Vous êtes de 65.
On n'est plus là. Je suis de 65. Ouais.
Donc là, et effectivement, vous aviez 13 ans.
Ouais. Alors, il y avait eu Mike Brandt de 3 ans avant, mais ça m'a.
Oui, Mike Brandt n'avait pas la notoriété de Claude François parce que.
Voilà, j'aimais aussi, mais c'était pas. Il n'était pas. C'est pas un pote à moi, quoi. Ouais. Claude François, c'était mon Claude François.
Une pause, Nathalie, et on poursuit cette conversation. D'accord. À tout de suite. D'accord.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Toi et moi contre le monde entier.
Florian Gazan. Et je rappelle que Florian est le filleul de Claude François. On est avec Nathalie, donc, qui nous disait que c'était son premier choc parce qu'elle avait, elle est de 1965, elle a 13 ans et c'est son idole. Donc, j'imagine que ce soir-là, vous avez pleuré. C'était mon prince charmant. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le charme est toujours intact quand vous entendez ces chansons?
Absolument, je les écoute régulièrement quand je fais la gym, le ménage. Si par exemple ils passent à la radio, je ne peux pas zapper. C'est plus fort que moi, c'est un attachement. Alors je pense que c'est un attachement plus à mon enfance, parce que c'était mon univers. J'ai pas beaucoup d'autres souvenirs de mon enfance par rapport au métier de mes parents. Et Claude François, c'était voilà mon univers. Il y a des de temps en temps à la télé, il y a des émissions qui passent. Carpentier, c'était fabuleux. Pareil, je l'ai déjà vu 20 fois, mais je ne zappe pas, je ne peux pas.
C'est vrai qu'on connaît toutes les images.
Je ne permets pas. Ouais.
Florian, est-ce qu'il reste des choses qu'on ne sait pas sur Claude François? Et vous me disiez hors antenne, faut que je parle à ma mère, parce qu'elle a peut-être des choses à me dire qu'elle ne m'a encore pas dites sur Claude François.
Ouais, bah forcément, c'était un personnage absolument extravagant. Enfin, il avait une part de lumière, une part d'ombre, et forcément, dans la part d'ombre, il y a des choses que je ne sais pas. On ne sait pas, il avait une relation très particulière déjà à lui-même, c'est-à-dire qu'il se détestait. Il détestait son nez, il s'était fait opérer du nez, hein, chirurgie esthétique, c'est un des premiers à en faire. Il détestait sa voix, il disait qu'il avait une voix de canard. Et donc c'est pour ça qu'il était très jaloux des Michel Sardou, etc., qui étaient des chanteurs vraiment avec des grandes voix, et lui détestait ça. Et puis voilà, et puis il avait un rapport aussi à ses fans parfois un peu trouble. On sait que dans ces années-là, on a parlé ces derniers temps avec ces affaires un peu de, je ne vais pas dire de pédophilie, mais voilà, il aimait les jeunes femmes blondes.
Oui, les nymphètes.
Voilà, les nymphètes.
On appelait à l'époque les nymphètes.
Voilà, mais c'était autre temps, autre mœurs.
Donc des jeunes femmes qui ont 13, 14, 15, 16 ans, c'est Lolita, c'était l'époque effectivement, voilà, qui photographiait.
Qui venait camper en bas de chez lui, boulevard Borel-Axel-Mons. Donc voilà, il y a.
Qui dormait devant sa porte.
Voilà, qui dormait devant sa porte. Et voilà, donc il y a sans doute des choses qu'on ne sait pas, mais bon, ce qui reste, et c'est le principal, c'est ses chansons.
Merci Nathalie. Il y a Dany également qui est là. Dany, alors vous avez une caisse de vinyle de Claude François.
Pas entièrement de Claude François, mais beaucoup, et j'adorais Claude François. Je suis un tout petit peu plus âgée que lui. Et quand par hasard on se trouve à danser avec Claude François, alors là tout le monde se lève et moi la première.
Bah, il est de 38, c'est ça qui est extraordinaire. Donc, il aurait aujourd'hui 83 ans.
Incroyable.
C'est incroyable. Et par définition, on ne sait pas le visage qu'il aurait. Oui, bien sûr, Dany, mais c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que ces gens sont jeunes, quoi qu'il arrive.
Ouais.
C'est vrai pour James Dean, c'est vrai pour beaucoup de stars comme ça qui sont morts jeunes, qui sont immortalisés dans leur jeunesse.
Je vais vous faire rire parce que mes idoles ne sont pas du tout comme Claude François. J'adorais Johnny et j'adorais Aznavour. Vous voyez, ça n'a rien à voir.
Effectivement. Mais c'est vrai l'histoire de la voix. Celui qui a la plus belle voix des années 70, c'est Sardou, qui a une voix extraordinaire.
Ah oui, Sardou a une voix dingue. Bon, Johnny est pas mal dans le genre.
Oui, vous avez parfaitement raison. Ces deux-là ont deux voix.
Ça va.
Ça va. Bon. Mais dans le métier, on disait que celui qui chantait le mieux, c'était Sardou,
oui,
qui avait une voix extraordinaire, qui ne fait jamais une fausse note, etc., qui a une joie qui monte très haut dans le France, etc. Et que, effectivement, Claude François n'a pas la même tessiture et le même organe.
Et moi, j'adorais et le chanteur et le personnage.
Ouais, parce qu'il avait la notion, la touche visuelle en plus. Les Claudettes, tout ça, enfin, c'était le premier à faire tout ça, les costumes un peu extravagants, satinés. Claude, il apportait cette dimension visuelle. Il était déjà audiovisuel, télévisuel avant l'heure, quoi.
Ben, merci Florian, merci vraiment.
Merci,
c'était un plaisir. D'abord, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. J'espère que votre livre se vend bien et marche bien.
Oui,
Ibis.
Ibis au Cherche-Midi, merci.
Voilà.
Ça se passe bien, ça va, c'est gentil.
Que j'ai lu, qui est une confession très troublante et très intéressante. Et vous savez qu'on a un débrief désormais tous les jours à 14h25.
Ah.
Et c'est l'ami Laurent Tessier depuis un gros mois peut-être, non, un peu plus que ça.
Un peu plus.
Un peu plus, qui fait le débrief et c'est toujours formidable. À tout de suite.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Faut-il commémorer le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte ? Figure majeure de l'histoire, figure controversée, Emmanuel Macron a-t-il raison de célébrer cet anniversaire ? Un bon sujet de débat, Pascal.
Sur Napoléon, on va faire un malheur, je sens.
Ah oui, mesdames et messieurs, Jean-François a fait le show une partie de l'émission et il ne porte pas Napoléon dans son cœur.
Bon, allons-y. Tout le monde nous balance son code civil. Son code civil qui rétablit l'esclavage et qui renvoie les femmes au rang d'animal domestique. C'est quand même pas terrible.
Je suis pas sûr que les femmes soient renvoyées au rang d'animal domestique.
Renvoyez votre histoire.
Oh là là, punchline, mais Jean-François ne s'arrête pas là. Il a fait plusieurs dédicaces à Napoléon dans ses cours, jadis.
Quand j'étais en seconde, on étudiait Napoléon, maintenant on n'étudie plus l'histoire. J'assassinais Napoléon dans tous mes devoirs, mais j'avais toujours de bonnes notes.
Et quand Sacha intervient au 32-10, Jean-François nous fait part de sa bonne parole.
Il veut commémorer. Voilà.
Il ne sait plus à qui s'accrocher.
Oh là là, c'est continu. Un dernier mot, Jean-François, sur Napoléon.
Non, Napoléon est une catastrophe.
Oui, mais j'ai bien compris, Jean-François.
C'est vraiment la caca, la gata, c'est la
catastrophe. Allez, Bertrand, défenseur de la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon, intervient. Mais Jean-François n'est jamais très loin.
Cinq membres de ma famille ont fait partie de l'armée, de la grande armée. Il y en a quatre qui sont morts, un qui a survécu. Et
alors ? Ah bon ? Et alors ? Vous leur avez parlé ?
Vous leur avez parlé ?
Aïe, 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 aïe. Que disiez-vous, Pascal, au début de l'émission ?
Sur Napoléon, on va faire un malheur, je sais.
Ouais. Ça, résultat garanti. Et puis dans l'émission, nous n'hésitons pas à faire des demandes à la direction de RTL.
Je viens d'avoir l'ami Philippe Rey qui dirige la rédaction d'RTL. Alors, il va appeler Jacques Esnoux et peut-être Régis Ravanas, mais il est question que nous fassions les auditeurs ont la parole le 5 mai en direct de Sainte-Hélène. Voyage,
voyage. J'adorerais. Allez, allons-y, délocalisons toute l'émission, toute l'équipe. Mais pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette demande, Pascal ?
Parmi les destinations où j'aimerais aller, je trouve que Sainte-Hélène, je rêve de ça, pas vous ?
C'est non. Cela, oui. C'est cela, oui.
Pas vraiment. Sinon, dans l'émission, nous adorons employer des mots prestigieux.
L'homme providentiel, c'est pas des carabistouilles.
Faut pas raconter non plus des carabistouilles à nos concitoyens. Hein.
Pas de carabistouilles.
Carabistouilles, mesdames et messieurs. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure pour les auditeurs ont la parole. 13h, finalement, comme dirait Claude François.
Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude.
Waouh.
Vous voulez pas la Danemois, c'est moins loin que Sainte-Hélène.
C'est étonnant d'aller à Sainte-Hélène. Vous n'êtes pas intéressé par aller à Longwood là-bas, ça m'intéresse.
Si, il y a un hôtel.
On en trouvera un, on dormira sous la tente. L'impératrice de nos après-midi est en train d'arriver. Mademoiselle Flamand.
Ah.
Flavie.
Pas Joséphine.
Non, ce n'est pas Joséphine et vous n'êtes pas Napoléon. A tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.